Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de perspective, l'analyse de geek. Dans cet épisode, on avait envie de fêter la sortie de la Snyder Cut Justice League. Alors évidemment, on en parle pour votre plaisir. Bonne écoute tout le monde. Salut Jim.
Hey!
Fait qu'aujourd'hui, on voulait fêter la sortie de la Snyder Cut de la Justice League pour en parler évidemment. Qu'on va commencer avec la question qu'il faut se poser en commençant. Comment tu l'as trouvé, la Snyder Cut?
J'ai trouvé, comparé à l'autre film, comparé au Justice League régulier, était vraiment, vraiment meilleur. En tant que film un peu stand-alone, je l'ai trouvé quand même vraiment bon. Pour vrai, ça l'a fait... Je l'ai écouté, puis je me suis pas ennuyé. Je sais que beaucoup de gens disaient qu'il y a des longueurs, puis que c'est long, puis tout. Mais moi, c'est ce genre d'affaire, de ce genre de film-là que j'aime. Moi, écouter Return of the King en boucle à tous les mois, ça me dérange pas parce que c'est un masterpiece. Fait que ça aussi, c'était vraiment pas pire.
Ben, c'est comme le monde qui regardait le nouveau Joker de Joaquin Phoenix qui disait qu'il y avait des longueurs. T'sais, les longueurs dans DC, ils ont vraiment le purpose de set de tone. T'sais, de mettre l'ambiance narrative au travers de la musique, au travers juste comment les personnages vont se déplacer puis vont regarder. T'sais, si on a la tête basse, l'ambiance ça va être plus lourde, la musique va être plus calme, les notes sont plus espacées pour que tu sentes vraiment la profondeur des choses. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça dans la Snyder Cut parce que en 4 heures, t'as le temps de placer les choses là, pour elle.
Exactement. Puis, tu sais, les longueurs, qui dit longueur dit un peu jeu d'acteur quand il y en a. Là, je veux dire, il y a des films qui ont des longueurs, il y a focal, mais dans ce film-là, il y a beaucoup plus de jeu d'acteur. Je veux dire, on prend le temps de voir des émotions, on prend le temps de voir comment il réagit. Tu sais, Superman, dans l'autre, t'as pas le temps de voir vraiment sa transition. Le gars, il vient de revivre, genre 5 secondes après, faut qu'il ait pété des gueules. Tu sais, t'as pas le temps de voir la transition dans celui-là, t'as vraiment, il vient de revenir. Il est pas sûr, il doute, pis tout, pis tu le vois vraiment passer à travers une transition. Elle est quand même rapide, mais elle est bien plus lente que l'autre d'avant, ce qui fait que tu peux voir la transition entre lui qui vient de revenir pis qui comprend pas ce qui se passe, qui passe genre de... à peu près toutes les émotions un peu jusqu'à ce qu'il commence à réaliser qu'est-ce qui se passe puis ce qui s'en vient. Puis ça rajoute vraiment une belle profondeur à ce film-là, tu sais.
Ouais, contrairement à la team, il commence déjà à charger. Superman est comme « Ah, c'est vrai, faut que j'y aille avec eux » puis il part tout de suite avec eux dans la version de Whedon. Dans la version de Snyder, non, faut qu'il passe son temps, il s'en va à la ferme, prendre le temps de méditer un peu, promener dans les champs, réaliser ce qu'il a perdu en mourant la première fois. Pourquoi il va défendre aussi, puis pourquoi il veut être un beacon of hope? Ça sert à rien de faire ça si t'as pas envie de revenir nulle part après. T'sais.
Ouais. Puis en même temps, je trouve que dans l'original, les origin stories des personnages aussi étaient quand même faites rapides. Tu sais, je veux dire, Barry Allen, son origin story, c'est juste comme il servir de bord, puis Batman est là, tu sais.
Lui, puis Cyborg avait vraiment été raté, je trouve, dans la version de Whedon. Là.
Ouais, vraiment.
Parce que, tu sais, ils ont mis le film 2 heures, puis ils voulaient plugger 5 origin stories.
C'est parce que... Je pense que c'est ce que Marvel fait mieux que DC à ce niveau-là, parce que...
Mais Marvel, ils n'ont pas essayé de plugger 5 origin stories dans le même film. On a vu 5 films de super-héros individuels, puis après ça, on a vu leur team-up.
Ouais.
Pas, il y a deux, ça, juste deux qu'on sait c'est qui, puis bam, team up!
C'est ça, puis ça c'est rien, parce que tu sais, regarde les comics, regarde, mettons, une trame un peu comme, mettons, la mort de Superman. Juste la trame, la mort de Superman, il y a peut-être comme 10 BD qu'il faut que tu lises avant de lire celle-là, juste pour te mettre dans le contexte. Puis 10 BD, c'est genre comme 20 films. Fait que tu sais, je pense que c'est ce que souffre beaucoup la franchise de DC, c'est qu'ils essaient de cramer comme 1 million d'affaires trop rapidement pour juste passer à d'autres choses. Regarde Superman versus Batman. Il y a genre The Dark Knight Returns Part 2, pas la Part 1. Après ça, il y a le Death of Superman. T'as toute l'affaire avec aussi Doomsday qui ont à peine expliqué. Fait que tu sais, comme ils ont cramé comme 4 films. Puis Wonder Woman qui va juste débarquer. Elle a comme deux scènes dans le film. Puis après ça, elle débarque full gear, full shape et tout. Fait qu'ils crament juste 1 million d'affaires dans un film pour essayer de plugger le plus d'affaires. Puis je suis comme, ouais, mais c'est parce que là-dessus, t'as comme... T'as 10 films, là, tu sais, comme... Prends ton temps, relax, tu sais, mets-nous, tu sais, tease-moi un peu, là, je veux dire, frais de sec de même, là, ça marche pas, là, tu sais.
Non, parce que Marvel aussi font un peu leur forme de compressé, mais je trouve que c'est pas le même. Tu sais, Marvel, ils vont prendre un arc qui est super gros comme Age of Ultron, puis ils vont le mettre en un film, mais au moins, ça reste un thème.
Ouais.
Là, c'est que DC, ils prennent trois thèmes différents, c'est pas vraiment des histoires qui sont censées coexister, puis font... Ils ont eu des bons ratings, ces histoires-là, ouais, on va les fusionner.
Exactement. Moi, je pense juste que si, mettons, comme mettons, dans... je retourne toujours à ce film-là parce que c'est le précurseur qui met en scène l'autre, là. Mais Batman v Superman, juste l'aspect, le Dark Knight Return, fait, mettons, deux films, full deux films, juste Dark Knight Return, puis les gens vont peut-être trouver ça rapido presto, là, fait que... Pis ça, c'est juste les deux films.
Doomsday, il peut être un film au complet à lui tout seul.
C'est ça, là, tu sais, comme, il y a beaucoup de choses cramées dans un, puis en tout cas, ça pour dire que dans la Snyder Cut, je suis content au moins qu'ils ont juste vraiment pris le temps de mettre les choses en scène, puis ça fait toute la différence. Vraiment toute la différence.
Ouais, puis dans chaque scène, tu vois qu'il y avait vraiment un plan pour son futur. Il avait prévu deux autres Justice League, un solo movie de Batman, puis un Suicide Squad, un autre Suicide Squad. Pis tu vois qu'il y avait des teasers pour tous ces films-là dans son film, là. Tout était set pour que ces personnages aient une importance dans l'univers DC, puis finalement, poubelle!
Ouais, poubelle.
À part sur le hashtag Snyder, release the entire Snyder Cineverse.
Ouais, ben quelque chose à dire aux gens aussi, c'est que la Snyder Scott est pas canon, fait que c'est vraiment ça. Juste le fun qu'elle soit sortie, mais il y aura pas rien dans le futur par rapport à ça. En tout cas, pour l'instant, si, mettons, ils décident de faire comme moi, finalement, on vient là que la Snyder Scott est plus nice, je serais content, mais je penserais pas que
non, moi non plus.
Non. Fait que...
Entre autres, dans les différences entre les deux producers ou réalisateurs, il y a des petits détails dans leur technique que j'ai envie de mentionner pour les geeks de cinéma. Entre autres, Snyder, il filme toujours ses films en 4-3 ratio. C'est ce qui fait que quand vous allez écouter la Snyder, là, les bandes noires sont sur le côté ici, au lieu de, comme quand vous regardez le podcast, sont en haut comme ça. La majorité des films, ils font ça aussi. Puis ça, c'est la façon flat screen. Ça commençait à faire ça parce que les cinémas et les flat screens, les télés sont plus larges que hautes. Puis lui, il est comme, non, old style, encore les télés carrées. Mais personnellement, je trouve que ça donne un petit effet page de comic book. Parce qu'une page de comic book, c'est à peu près la même forme rectangulaire vers le haut, puis c'est pas étendu sur le côté. Puis aussi, si ça vous dérange, dites-vous que le film dure 4 heures, là, après 5 minutes, c'est sûr que vous l'oubliez.
Tu penses plus, là. Il y a tellement de jus qui se donne que tu l'oublies, là. Moi, au début, je savais même pas que c'était ça. Je pensais juste que c'était... Parce que dans le fond, il y a juste une façon de l'avoir au Canada, le Snyder Cut, c'est si t'as Crave. C'est la seule façon. Ou si tu utilises d'autres méthodes alternatives pas particulièrement légales que je n'expliquerai pas comment les faire dans un podcast. Mais c'est vraiment les seules façons que tu as de l'avoir. Moi, je l'ai checké sur Crave. Parce que je connaissais quelqu'un qui avait, bon, moi j'ai pas Crave, mais je connaissais quelqu'un qui avait un compte Crave, il me l'a passé pour une journée, puis je suis allé le voir, je l'ai loué. D'ailleurs, qui est pas donné non plus sur Crave, là, mais je suis content d'avoir encouragé dans le fond le bon, encouragé, whatever, mais c'est pas grave, j'ai du fun à l'écouter, fait que tant mieux. Mais pour vrai, j'étais sûr au début que c'était juste un problème de formatage, puis c'était juste Crave, parce que Crave c'est pas particulièrement l'application la meilleure au Canada, là.
T'as dû faire le saut, toi, dans. Et WandaVision, quand ça a changé de format?
Non, ça c'était pas trop pire, parce que tu sais, j'étais comme, ok, c'est Disney, il y a tout un purpose dans tout, fait que c'était correct. Là, je suis sur Crave, écoute, moi j'ai écouté le dernier épisode de Game of Thrones sur Crave, puis la qualité des gars, c'était absolument dégueulasse, là. Moi, je les ai tous achetés, puis je les écoute genre comme full HD chez nous, sur mon big screen, whatever. En tout cas, mais bon, ça c'est moi puis Crave, là, on a une histoire d'amour, de haine, elle puis moi, mais en tout cas, moi, je l'ai même pas remarqué.
Que... Ah non, tu craves pas pour eux autres?
Non, je crave pas pour eux autres. Crave a brisé mon cœur.
Oh non! Je voulais aussi dire, entre autres, que Josh Whedon utilise un red shade sur toutes ses images, sur la fin de son édition. C'est un peu ce qui fait le look non réaliste quand vous regardez Justice League, l'original theatrical cut. C'est aussi l'effet que ça donne d'un comic book animated. Quand vous regardez un animé de dessin animé, c'est à peu près les mêmes shades, c'est ce qui donne un peu le reflet de la cape à Superman dans tout le film. Vous avez l'impression qu'il est dans toutes les images puis que vous la voyez partout, pour ça.
Ouais.
Par contre, Snyder, lui, il préfère désaturer les couleurs puis il enlève vraiment le plus possible la couleur de partout, ce qui fait tout a l'air plus noir puis tout a l'air plus uni aussi. Ça crée une ambiance beaucoup plus dark. Parce que tu vois, t'as comme pas la lumière qui est le beacon of hope. Tu sais, les couleurs jaunes, rouges, bleus, surtout les bleus plus perçants. Il y a des bleus qui sont plus vers le noir, mais c'est toutes des couleurs qui accrochent l'œil, qui vont venir captiver l'attention, puis un peu comme on représente au light side. Puis lui, il enlève tout ça. Tu sais, c'est pas pour rien que Superman, entre autres, à la fin, il a un petit odd à son black costume. Puis il est en noir et gris. Parce que ça fit avec tout le reste de son ambiance. T'sais, tu peux pas le mettre en rouge pétant si tout le reste de ton film, il est noir, gris, foncé, puis...
Pendant que j'y pense, là, pour de vrai, je me rappelle pas, dans le film, avoir vu une scène ensoleillée.
Non, c'est ça.
C'est tout le temps drabe.
C'est gris, c'est lourd. C'est...
La scène où il y a le plus de soleil, c'est quand, au début du film, dans le fond, ils ont changé aussi les scènes de place un peu, mais au début du film, il s'en va à la rencontre, justement, d'Aquaman, puis il se promène un peu dans les montagnes, puis là, tu vois clairement que c'est dans un pays...
dans une grosse tempête de neige. Puis...
Ouais, c'est ça, c'est un pays du nord, là, tu sais, c'est en Scandinavie, en quelque part, là, puis il y a juste des gros nuages partout, tu sais, il est peut-être, mettons, midi, puis tu vois pas un once de soleil, puis dans tout le long du film, il y a pas un once de soleil dans tout le film.
Ben, c'est bon, parce que on sait que Darkseid est attiré par le désespoir. Toute sa troupe, ce qu'il aime, c'est le désespoir. Puis là, les terriens, on vient de perdre notre beacon of hope, notre lueur d'espoir, celui qui nous permet d'imaginer que les aliens vont pas venir tous nous détruire. Puis là, il est disparu. Puis c'est un peu ça que le film, il montre par toutes les scènes de Snyder, puis je trouve ça genius, là. C'est toujours... Tu vois que les gens, ils ont plus espoir. Ouais. Puis il y a une belle trame aussi de Batman au travers de toute la story, où Batman, d'habitude, c'est lui, il est dark, là. Il est vraiment, tu sais, un passé lourd, il y a bien du monde qui sont morts autour de lui, il est jamais de bonne humeur. Mais au travers le film, c'est lui qui dit le plus souvent qu'il faut garder espoir. Parce qu'il sait que Superman, il est mort, puis que s'il fait pas ce job-là, là, ça va aller mal.
Tu sais que ça va pas bien quand c'est Batman, le leader positif.
C'est ça.
Le gars qui est comme, let's go les boys.
Faut que je fasse ce job-là, sinon c'est quoi qui va se passer.
Ça va pas bien, là, tu sais.
Tu sais, c'est qui va le faire? C'est Cyborg le Drab ou genre Wonder Woman, tu sais?
Aquaman. Ben, Wonder Woman, je te dirais qu'elle est pas pire.
Elle pourrait un peu, mais elle est jamais là. L'affaire, c'est qu'elle est juste là quand il y a de l'action, sinon elle est pas là.
Ouais.
Puis Aquaman, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Marie avec tout le monde. Moi, je suis à moitié humain, à moitié Atlian, j'haïs les deux.
Puis tout le long du film, il est juste en train de boire du whisky à bouteille. Moi, je pense que tout le long du film, il est juste drunk. Il est juste là, il est juste comme, c'est quoi, ça va faire? Ok, on va péter ailleurs, ok.
Je le trouvais tellement parfait, moi. En plus, je trouve qu'il est tellement sauvage, des sous de maman.
Ouais. Écoute, le casting il est quand même bon. Puis je suis content qu'il ait utilisé ce casting-là du Aquaman vraiment insane, vraiment intense, là, comme la version un peu avec celui qui est comme un vieux crochet, puis il est intense, puis une grosse barbe, puis tout. Plutôt que juste comme l'Aquaman où il est juste plus. Mainstream, un peu plus relax. En tout cas, je suis content qu'il y ait la version plus ratchet. Je trouve que ça change du personnage, là, surtout qu'on le niaise un peu. Là,
il fait plus avec le vieux Batman aussi. Tu sais, c'est le Batman dans la cinquantaine qui a déjà perdu Jason Todd, qui a déjà...
D'ailleurs, qu'on parle dans cette version-là, mais qu'on ne parle pas dans les autres, hein, parce que dans les autres, on ne parle pas. Fait que là, ça fait toute
on
la différence.
On avait juste vu son costume.
Ouais, c'est ça, mais...
C'est tout.
Tu comprends pas. Ouais. Là, il parle, puis il mentionne. Puis,
ah, ça c'était dark, là.
C'était une grosse partie de sa vie, là. C'est quand ils ont ramené ce comic-là, là, ça l'a fait ben du remous, là. Parce que là, maintenant, après ça, il y a eu un troisième Robin qui est sorti de ça. Mais yo, cette histoire-là, elle est insane, là. Si vous êtes capable d'aller voir The Red Hood, là, ou tout ce qui est par rapport à ça, là, puis Jason Todd, puis le Joker, c'est vraiment du Batman dark, puis je suis content qu'il en parle légèrement. Pas nécessairement qu'ils vont l'amener dans le futur, mais que ça soit déjà passé, ça, par exemple, c'est cool. Ça met beaucoup de jus
en fait,
dans le personnage.
J'ai lu que Snyder avait dit récemment, tu sais, il parlait de s'il avait pu faire ses plans, ça allait être quoi, tu sais. Puis on aurait vu le flashback de Jared Leto en Joker qui éclate la tête de Robin à coup de crowbar.
Ouf, ça aurait été un flashback de malade.
Ouais, parce que tu sais, on voit déjà que dans la Snyder Cut que Batman commence à pas aller bien, il y a des visions, son cerveau il commence à briser. Entre autres, devoir coopérer avec le Joker, là, ça l'aurait trigger tous ces flashbacks-là.
c'est clair.
Aussi, pour terminer les grosses différences qui sont juste en lien avec l'édition, Whedon, il a été très populaire pour avoir fait Avenger 1, le film. Age of Ultron. Il a fait les Buffy contre les vampires. Puis si vous avez vu ces trois choses-là, là, vous savez qu'il y a toujours du comedy relief. Puis Whedon aime ça, les jokes. Puis il aime ça rire. Puis il aime ça que ça soit pas pris tellement au sérieux parce que c'est un comic book. Puis ça marche super bien pour Marvel. Faut se le dire, là, il a parti cette trame-là pour Marvel. Tous les autres writers sont allés un peu dans le même comedy relief. Ça marche excessivement bien. T'appliques la même chose à DC, ça marche pas. Puis il y a une raison pour ça. La lourdeur psychologique des personnages. Dans Marvel, tout est pris un peu à la légère. Il y a des arcs là, que les personnages ils vivent des affaires super lourdes psychologiquement. Il y en a, mais ils sont plus niches.
Puis en globalement, même temps, ils ne sont pas allés là non plus.
C'est ça. Globalement, les personnages sont toujours un peu maîtres d'eux-mêmes. Ils sont quand même... Ils se contrôlent bien. Tandis ici, c'est plus à propos de comment l'humain est cassé, puis que les justiciers sont pas bien, puis qu'ils ont... Ouais. Autant les gentils que les méchants, tout le monde est vraiment très gris.
Ouais, puis je trouve qu'ils ont parti ça aussi dans le sens où est-ce que, tu sais, mettons, on prend comme exemple Batman. Batman, où il est rendu, là, en ce moment, dans le Snyder Cut, là, il y a genre 25 ans de marde qu'ils ont donné déjà en partant, là. Dans ben Superman oui. versus Batman, qui est dans le fond un peu le Dark Knight Return, ça, c'est un Batman qui a fait toutes ses années de Batman, qui a pris sa retraite et qui n'est plus capable de ne pas être Batman parce que le poids, genre le fardeau du Batman, il est plus capable de juste plus être Batman. Il revient après, comme je pense que c'est 10 ans d'absence. Il est juste physiquement plus capable de ne plus être Batman. Après ça, t'as toute une BD après ça pour aller jusqu'au part 2 où est-ce qu'il... En tout cas, la lourdeur qui vient avec ça, puis là, tu passes à travers les événements de Jason Todd, tu passes à travers tout ça. Il commence avec des personnages qui sont déjà décalissés de la vie. Puis là, tu veux faire des jokes avec ça? OK, cool, il va en avoir des funnés. Mais en même temps, tu peux pas t'en aller dans le comic relief ou dans le positif, là. Je veux dire, ces personnages-là sont brisés.
Ou genre, les
là,
jokes de situation, ils passent moins bien. Parce que le comedy ouais. relief fait par The Flash, entre autres, qui est déjà un personnage comique, c'est ça son purpose dans le comic book. Ses blagues, ils passent super bien. Mais il faut que t'enlèves les comédies de situation ou les jokes weird, comme Superman qui dit à Batman en le tenant par le cou comme... Est-ce que toi, tu sais, je vais te faire toi saigner, tu sais, pour comme redonner sa réplique. Wesh! C'était dégueulasse, ça n'a pas rapport. Puis là, t'as juste la version de Snyder qui fit plus à DC. Tu sais, c'est drôle parce que, comme je dis dans Marvel, ça passe, ça. Puis ça va bien, ça. Puis c'est pour ouais. ça aussi que, autant dans la réalisation, dans l'édition, c'est ça qui s'est senti le plus. Puis je trouve que toute l'ambiance passe par là. Ils ont enlevé les jokes, ils ont enlevé le ton un peu comic book, tout est plus lourd, tout est plus dark. Ils ouais. montrent plus la facette désespoir de DC, puis souvent les fans de DC, c'est ça qu'on aime de ouais. DC.
Ben, en fait, l'histoire est plus profonde aussi à ce niveau-là. Ils ont gardé genre Flash qui est un peu funky. Ils font pas faire des jokes trop poussés, mais le gars, il est déjà funné à
tu
la base.
Tu vois juste qu'il est comme un peu mésadapté socialement. C'est juste ça qui est
c'est
drôle.
C'est ça, puis vu qu'il est jeune, puis c'est comme un début Flash, mm-hmm. comme un Flash de débutant, dans le fond, qui vient de commencer un peu sa carrière de Flash, ben, il a pas tout le trauma de tout whatever. Fait qu'il est quand même capable de juste faire comme « Ah, c'est fucking nice, c'est fucking cool », puis juste comme faire ces choses-là. Ce que je trouve ça plate, par exemple, c'est qu'ils ont enlevé deux scènes de Comedy Relief qui étaient vraiment, vraiment quand même très... qui aurait vraiment fité dans le Snyder Cut, qui n'ont pas mis. La première, c'est quand Flash, il rentre la première fois dans le Batcave, puis il se promène, puis il s'en va comme s'asseoir dans la Batmobile, puis il fait juste comme se promener de truc en truc. Ça, c'était quand même funny, puis je pense que ça l'aurait quand même bien passé. Puis l'autre affaire, c'est quand Aquaman, il s'assoit sur le lasso de Wonder Woman, puis il commence à juste dire comme exactement ce qu'il pense, puis juste comme si de rien n'était. Puis ça aussi, ils l'ont enlevé, mais écoute, je pense que ça l'aurait fité, mais c'est pas grave. Ça, c'est juste personnellement, ça aurait été le fun, mais ouais. qu'il ne soit pas là, ces scènes-là, ça change absolument rien au film. Fait que c'est pas la fin du monde.
Je sais qu'entre autres, tu voulais qu'on commence en parlant des... Presque tout le reste du podcast, on parlait des changements entre les deux puis la différence entre ouais. les deux. Puis on voulait commencer ouais. avec les bad guys, parce que c'est le fun dans des... Ah ouais. Tu sais, déjà dans les films de Spyro, faut se le dire, une partie qui est vraiment le fun, c'est les méchants. Puis yeah. DC, leurs méchants sont particulièrement plaisants, d'habitude.
Ouais, puis pas juste ça, là. Je veux dire... Si vous suivez un peu ce qu'on fait, là, je veux dire, c'est clair que toi et moi, on tripe ces méchants.
Ouais.
On va parler des méchants. Fait que vous aimez pas ça, vous autres les méchants, mangent la merde, nous autres on aime ça. Fait que,
si tu fais un peu plus loin, on va parler des gentils.
Steppenwolf, comment qu'ils ont changé ce motherfucker-là? La première chose qu'ils ont faite, c'est l'image. Ils ont retravaillé tout son costume. Ils ont passé de « Ouais, le gars, il avait un peu d'armure » à genre « Yo, le gars, ce qu'il porte, là, c'est le chaos incarné, genre. C'est en métal. »
C'est une plate qui a l'air de respirer constamment.
Ouais. Elle a des pics qui sortent de partout quand il est piste. C'est vraiment réactif. Quand à un moment donné, il parle à Darkseid, il se fait vraiment à genoux. Puis là, son armure, elle s'enlève tout seul. Exactement comme quelqu'un qui bat devant son dieu. Puis tout. T'sais, c'est toutes des petites affaires qui font toute la différence.
Puis aussi, son autre costume, méchant. On aurait dit un gars dans un cosplay convention. Puis t'sais, rien pour enlever au monde du cosplay. Il y en a des super beaux. Mais c'est rarement intimidant.
Ouais.
C'est beau. C'est rarement intimidant. Puis j'étais pas intimidé du tout par l'ancienne version de Steppenwolf. Et honnêtement, je croiserais la Snyder Cut de Steppenwolf. Je me chie dans les pants en 5 secondes.
C'est sûr. Il y a de l'air vraiment.
C'est les 5 prêt. Secondes de réaliser qu'il existe, là.
Oh, ouais, écoute. Il est vraiment plus intense. Juste, mettons, comment ils ont fait sa main. Il y a comme une main à 7 doigts, genre.
Je pense qu'il y en a même 7.
Juste comme ça, c'est vraiment plus deep. C'est vraiment plus dark. Ils ont changé tout son purpose. Avant, là, puis juste...
Oh, ouais.
Moi, juste comment il apparaît dans l'original, c'est que le Boomtoum apparaît, boum, il pop, il est comme, hey, whatever. Puis là, après ça, le Boomtoum est encore ouvert, puis là, il y a comme plein de Parademons qui sortent, puis tout. Dans la Snyder's Cut, le Boomtoum, il apparaît, il y a plein de Parademons qui sort, puis là, après ça, bam, là, lui, il sort. Je trouve que ça fait toute la différence.
Oui, lui, c'est
ça
le Big Boss!
Exactement, c'est le Big Boss. T'as comme les wannabes qui sortent en premier, s'assurer que tout est chill. Bam! Là, lui, il sort. Puis, il a juste l'air vraiment plus violent. Ils ont retravaillé toutes ses phrases. Il dit plus les mêmes phrases. Ça a tout changé. Puis, c'est vraiment to the point, là. Comme, il niaise pas. C'est vraiment juste comme, je suis là pour te péter la gueule. Donne-moi la boxe, tu sais.
Dans la version de Whedon, il y avait un peu plus de jokes. Puis aussi, il expliquait pas tellement pourquoi il était là autre que avoir les Motherbox. C'est comme, moi, je veux les Motherbox parce que c'est fort, tu sais. C'est cool. Ouais. Puis aussi, je trouvais que ils ont pas bien... Tu sais, il avait pas mis son côté fanatique. Puis à chaque fois qu'il parlait un peu de son plan, on voyait qu'il y avait un de ses supérieurs, tu sais. Mais il disait que c'était surtout son plan. C'est comme si c'était tout à ses plans qui étaient de motion. Puis même dans le flashback of the old time, qui est un peu comme dans la narration, un peu la première fois que la Terre se serait faite attaquer par des aliens. À la base, c'est dans la version de Whedon, c'est Steppenwolf qui est là, puis Steppenwolf serait fait éclater à gueule en 10 secondes et demie là, par la team qui était là dans ce temps-là. Là. C'est ça, la vérité. Ouais. Là. Là, de faire le parallèle que là, non, c'était Darkseid qui était là, puis Steppenwolf, il est pas juste en dessous de Darkseid, il est vraiment en dessous. Là. C'est un exilé, banni depuis longtemps, c'est un pourri. Puis lui, il torche tout le monde.
Ouais. Puis en plus, le fait qu'il soit exilé puis que c'est un pourri dans le fond dans cet univers-là, ça y enlève zéro le fait que son dieu, son master, c'est Darkseid. Même s'il a exilé, même s'il a fait, même s'il a ça, même après genre 1000 ans de 2000 ans, 10 000 ans d'exil, il est au service de Darkseid à 100%. Là. Puis sa quête, c'est vraiment une quête de se redeem. Là. Lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est il veut reprendre un peu son honneur. Il est comme, j'ai l'opportunité en ce moment-là là, de comme me racheter puis de refaire partie des rangs de Darkseid. C'est ça son goal. Puis il met bien, je trouve que ça fait bien plus de sens que juste comme, je vais avoir de l'air un peu worthy dans l'autre. Là. Non, là, il est vraiment en rédemption totale. Puis ça, c'est...
Ça a donné une meilleure arc. Pour lui, son arc était vraiment meilleur. Surtout qu'à la fin de la version de Whedon, il meurt. Fait qu'à la fin de la Snyder Cut, et je vous cacherai pas qu'il meurt aussi. Là. Mais dans la version de Snyder, je trouve que son arc a fait plus une boucle. Elle est plus solide. Puis elle se tient plus. Puis aussi que je trouve que quand tu veux faire une trilogie de film...
Snyder ou...
Ouais, dans la version de Snyder, il est plus solide. Là.
Ouais.
Steppenwolf. Puis on savait qu'à la base, c'était censé avoir 3 Justice League. Puis quand tu fais une trilogie, là, c'est le fun que ton méchant, t'as l'impression qu'ils ont une curve de power, là, qu'ils sont de plus en plus forts. Honnêtement, dans la version de Whedon, il est pas impressionnant vraiment, Steppenwolf.
Attends.
Puis ce que ça crée, c'est que ça me fait pas vraiment de la hype pour le prochain, tu sais. Je me dis, là, si... En plus, lui, il était décrit comme un fort commandant, tu sais, un gars qui a un... T'sais, c'est lui qu'on envoyait pour régler la situation. Là, il est juste décrit comme il a trouvé la Terre par hasard puis aussi bien la péter pour se redeem. Ouais.
Exactement. Puis ça donne qu'il est quand même badass. pour la Terre qui n'est pas préparée, parce que la minute qu'on commence à step up, là, là il en arrache au bout. Là. Tu vois que ce n'est pas un big shot pantoute. Là. Il est fort, il est physiquement fort, c'est un bon méchant, mettons, de base. Mais la minute que tu mets une bonne team en place, là, oublie ça, là, il prend le bord là, assez facile.
Il a quand même gagné son premier 1 contre 5 contre Aquaman, Wonder Woman, Batman, Flash puis Cyborg en même temps. Là,
ouais, mais comme...
Je sais qu'ils sont pas au pic de leur team play, là, mettons. Là. Ils n'ont pas beaucoup de training ensemble, mais c'était quand même impressive.
Ouais, quand même. Puis, je veux dire... Je trouve qu'il se défend. Il se défend mieux dans la nouvelle. Même si dans la Snyder Cut, il se fait bien plus péter à la gueule que dans la celle de Whedon. Mais au moins, il y a une bonne raison pourquoi il se fait péter à la gueule. Puis je trouve qu'il se défend mieux dans le sens où est-ce que dans l'autre, il tape. Puis à un moment donné, il meurt. Bon, tu sais, il meurt tué par comme des Pirate Demons.
Parce qu'il sent.
Ouais, c'est ça fait aucun crise de sens. Puis dans celle-là, il se fait juste tuer, genre comme Wonder Woman, ben Superman Combo. Fait juste le ramasser là, écoute, il s'essuie pied dessus là, littéralement. Puis après ça, il fait juste comme le pitcher comme dans un boom tube, puis il le ramène à Darkseid. Puis ça donne que Wonder Woman est juste comme oh, by the way, chop dans ta tête, t'en as plus besoin aussi que tu t'en vas. Puis d'ailleurs, une des affaires aussi qui est intéressante dans cette version-là, c'est que c'est une version ben plus violente et il y a du sang partout. Tu vois, mettons, les gens qui revolent à gauche puis à droite, écoute, ils revolent sa roche, pach, il éclate sa roche, il y a du sang partout. T'es comme, OK, ça niaise plus, là. Dans un film de super-héros, d'ailleurs, le film, il est rated R, parce qu'il y a 3 fois le mot fuck, puis il y a du sang. Quand même, à profusion, là, ça gicle quand même. Là.
Ah ouais, entre autres, pour parler des scènes de combat, tous les personnages ont une scène de combat supplémentaire ou un allongement à leur scène de combat. Quand Wonder Woman sauve de l'attaque terroriste, la différence est insane. Le combat est tellement plus épique. Et elle détruit la gueule du terroriste à la fin.
Ah ouais, puis elle les lance sur le mur, puis tu vois juste comme la splouch de sang du gars qui atterrit sur le mur, comme. Elle est pas fine, là.
Ah ouais, tu vois vraiment que les Amazones, ils niaisent pas, là.
Non,
je trouve que même chose pour Aquaman, tu sais, sa façon de détruire tout ce qu'il y a dans le... Surtout un combat final, tu sais, quand il perce 2 personnes, lance sa lance, traverse 2 dudes d'une shot. Tous ses mouvements sont plus impactful.
Et à la fin, quand il se tire avec Steppenwolf, il est là, puis là, il commence à capoter, puis là, soudainement, en arrière de lui, il passe, tcha! Rentre le trident dans le dos, il est juste comme, allez les boys, inquiétez-vous pas, les poignets, tu sais. Puis c'est parfait, là, je veux dire, comme, il a juste fait comme, yo, il me regarde pas, tiens, mon tabarouette, puis c'est... Parfait. C'est ça qu'il faut faire.
C'est
des super-héros qui écoutent. C'est pas grave. L'honneur, c'est pour les faibles. Nous autres, on pète des gueules. C'est ça qu'on fait. Puis je suis content qu'enfin, il y a eu un petit peu de ça, tu sais.
Évidemment, on en a parlé un peu, mais Darkseid n'existe pas du tout dans la version de Whedon. Ça, je pense, c'est le plus gros mismatch ever de la première version.
T'explique pas ton méchant, ton big méchant final, en tout cas. Je suis content qu'il l'ait amené. Ils l'ont bien amené aussi. Ils ont rapidement aussi parlé de ses motivations, rapidement, mais ils sont pas allés en profondeur là-dedans. Je comprends, là, il y avait beaucoup de stock. Là. Ça aurait été une affaire de plus parce que c'est quand même un peu intense, là, son affaire. On parle-tu d'Apocalypse?
Oh oui.
Pas d'Apocalypse, excuse, de Darkseid. On parle-tu de Darkseid? On est rendu à Darkseid? Bon. Ben, pour ceux qui ne savent pas, Darkseid, lui, ce qu'il cherche, c'est l'équation... Anti-life equation qu'on sait pas en fait vraiment c'est quoi nécessairement dans les comics.
Ouais, elle a été expliquée un peu dans DC, en fait, une trame de comics, là, mais tu sais.
Un petit peu, mais tu sais, c'est pas.
Très brièvement.
C'est pas quelque chose de tangible dans le sens où est-ce que s'il y a trouve ou s'il y avait vraiment comme. Tu sais, si c'était quelque chose de précis, de clair, il sauterait dessus puis ce serait fini. Fait en gardant ça vague puis comme. Ça donne le ton dans le sens que ce méchant-là, il est là pour rester parce que c'est tellement vague que comme il la trouvera jamais.
Ouais, c'est plate, souvent, comme toutes les. C'est ça que je dis, puis les trames où il la trouve sont moins canon d'habitude. Comme dans DC, il active l'anti-life equation, puis tu vois tout le monde, comment le monde survivrait pas vraiment à l'anti-life pendant bien des années, puis ça prendrait comme 20 ans sans remettre. Là.
Ouais.
Mais ils sont rarement canon parce que c'est trop fort, l'anti-life equation.
C'est vraiment juste. C'est un but. Si t'as un but inatteignable, t'as un personnage qui est dans une non-ending quest. Fait que ça permet d'être là plus longtemps, d'être un méchant plus là, longtemps. Fait que c'est ça qui est ça. Il est pas là, tu le vois un petit peu. Moi, ce que j'aime, c'est que tu vois aussi son entourage. Tu vois Steppenwolf qui parle justement à son, un peu son faire-valoir. Là. Je me rappelle pas de son prénom, là, mais son le gars qui parle pour lui. Et dans une des scènes à la fin, quand tu ouvres le Boom Tube, tu vois la planète Apocalypse. Donc, tu vois un peu d'où est-ce qu'il vient. Et pour ceux qui sont vraiment geeks, tu vois Granny Goodness qui est là. Je sais pas c'est qui, allez voir ça. Granny Goodness, c'est vraiment un personnage quand même intéressant. Là. C'est vraiment juste une vieille madame. Mais en tout cas, whatever. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je l'ai pointé, puis j'étais juste comme « oh shit, c'est Granny Goodness! » Puis ma blonde qui écoutait avec moi était juste comme « quoi? Qui? Hein? Quoi? Il est quelle heure, là? Il est... Shit, il est 10h, quoi? Ça fait 4h qu'on écoute ça. » Fait que, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant.
Dans les mentions spéciales aussi, dans la guerre du passé, il y a un Green Lantern!
Oui!
J'étais tellement content!
Il y en avait un dans l'autre aussi, me semble, mais les deux, ils se font péter à gueule tout de suite en partant.
Mais c'est pas grave. J'aime ça, moi. À chaque fois que j'en vois un, je suis de bonne humeur. Même s'il meurt.
Ouais,
ils sont pleins. Ils peuvent bien s'en passer d'un temps en temps.
Puis, dans ce qui est intéressant dans celle-là, c'est que t'as Darkseid, puis il tue le Green Lantern. Il fait juste le stabber, puis tout. Puis, avant de le stabber, il choppe la main. Fait que tu vois la main qui revole, puis tout. Fait que quand il tue au loin, tu vois juste la bague de sa main choppée qui revole. Puis, elle arrive devant Darkseid, puis il essaye juste de la prendre, mais il n'a pas le temps de la prendre parce qu'il se passe plein d'affaires. Mais comme, j'aime ça comment il a juste osé essayer. Comment il se prend tellement pour un esti de Big Shot qui était juste comme.
Il y a du will, hein? Faut y donner.
Écoute, peut-être.
Il y a un weird will. Il y a du will. Fait que comme on l'a dit, il est un peu moins... T'sais, il n'a pas été là tout le film parce que c'est pas le chef... Ben oui, c'est le chef ultime, mais c'est pas le premier en haut. C'est pas comme le boss de tous les jours à Steppenwolf. Non. Il prend juste le relais quand les choses commencent à devenir vraiment sérieuses. Sinon, tu t'en crisses un peu.
Pour vrai. C'était quand Steppenwolf prend la première Motherbox, puis il met genre, il y a comme un genre de plaque de métal, il y met dedans, là, juste parce que, whatever. Puis son, quand il parle au second, genre de Darkseid, il est juste comme, je suis là, c'est à terre, hey, j'en ai trouvé une. Puis l'autre, il a fait, regarde là, le gars, il est pas intéressé, là. Trouve les trois, active les trois, puis après, c'est votre jaser.
Tout ça.
Au-delà de ça, là, parce que une fois que t'as ces trois boîtes-là, puis on comprend maintenant que oui, ces trois boîtes-là sont importantes sur la Terre, mais je veux dire, si ça l'intéresse pas tant. Tant que t'as pas les trois pis sont pas unis, ça doit être parce qu'ils s'en calissent un peu, parce que lui, il en a déjà, t'sais, il en a déjà plein, là, des Motherbox, là, il y en a partout, là, sur Apocalypse, là, fait que lui, il s'en fout un peu. Si, mettons, t'es rendu là, ah, il va peut-être te jaser, pis il va voir comme, oh shit, ok, ça l'a avancé, cette affaire-là, cool. Mais au-delà de ça, il est pas intéressé, c'est vraiment quand Steppenwolf, il dit, by the way, le Anti-Life Equation est sur la Terre, là, le gars, il fait juste comme, oh shit, pis là, le Darkseid, il fait juste comme, quoi?
Allô?
Quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Au moins c'est vraiment conséquent à ce niveau-là, là, tu sais.
Ouais, j'ai vraiment aimé ça, puis ça finit la boucle de Steppenwolf, tu sais, ça fait sa montée vraiment plus conséquente, puis logique.
Ouais, vraiment.
Moi, j'ai plus rien à dire sur les méchants. À part, tu veux parler un peu des Parademons?
Ouais, ils sont lettres.
Ouais, puis entre autres, c'est des démons sous le contrôle d'Apocalypse, tu sais, des démons. Ouais. C'est des créatures qui se nourrissent de peur et de
gêne. Ouais, là, c'est un peu laid comme concept. Moi, j'aime mieux ceux dans les... j'aime beaucoup ceux dans les Justice League War, les animés où c'est vraiment un démon, là, genre, c'est vraiment comme un démon avec des ailes en métal pis tout, qui crache du feu. Là, je suis comme, bon, ça, c'est un Parademon. L'autre, c'est juste... mouche, comme on dirait plus une mouche que d'autres choses.
Je trouvais qu'il me faisait penser, tu sais, à l'ennemi de Batman, là, qui a tout le temps comme un jetpack de feu puis un flamethrower.
Ah, Firefly.
Firefly, on aurait dit plein de Firefly partout.
Ouais, pour vrai, ça ressemble à ça.
Fait que pour passer du côté des gentils, on va faire un peu un breakdown des débuts. Parce que les deux débuts sont vraiment différents les uns des autres.
Vraiment.
Dans la version de Whedon, ça commence avec l'enterrement de Superman, tu vois des mondes se réunir, ils sont comme, oh mon dieu, Superman, il est mort. Après ça, tu jumpes tout de suite à Batman qui est sur le top d'un building en train de menacer un criminel, genre il peint sur le bord d'un building puis il est comme tu parles, tu sais, puis il est comme je comprends rien, puis il fait juste ça pour y faire peur au point que des Parademons se pointent parce que tu sais tout le monde sait que Batman il aime terroriser les gens, tu sais.
Ouais.
Il peut pas les tuer, mais il peut les terroriser comme il veut.
Ouais, puis là, le Parademon, comme il réussit à le capturer, puis le Parademon, il se suicide là, en s'explosant. Mm. Puis là, en s'explosant, ça révèle l'image de trois boîtes. Là, je suis comme... Quoi?
Dégueulasse.
Pourquoi quand ton minion, que c'est ton scout...
Il révèle un secret.
Ouais, ça fait aucun. Ok, je vais t'expliquer comment ça fonctionne dans la vie. T'envoies des scouts. Quand ils se suicident, là, ils se suicident. Ils brûlent toute l'information qu'ils ont eux autres. T'sais, le but, c'est de pas donner cette information-là. Puis là, toi, t'as un concept où quand ton scout se suicide, il révèle tout ton plan à l'avance. Je suis comme, t'es même pas encore là, puis il connaît déjà ton plan. T'es un leader de merde.
Ouais, définitivement. Okay. Là, ça fait que, dans la version de Whedon, Batman il est déjà au courant. Parce que s'il fait ça pour capturer un Parademon, c'est qu'il sait qu'il y a des aliens sur la Terre qui sont en train d'envahir.
Puis, qui fait du sens, parce que c'est le genre de truc que Batman saurait.
Ouais, Batman le saurait. Ça, c'est tout à fait logique. Mon problème avec ça, c'est que ça set le ton complètement différent pour les deux films. Dans le premier, de Whedon, Batman réagit à une situation. On est attaqué par des aliens. Je dois donc monter une team et convaincre ces gens-là de travailler pour moi parce que live, on est en danger. On n'a pas de raison de bonder. On n'a pas de raison de devenir des amis. On n'a pas de raison de travailler ensemble dans le futur. Il faudrait juste vraiment qu'on team up life avant de mourir. C'est le ton qui est un peu mis dans la version de Whedon au début. Puis après ça, t'as la version de Snyder. La version de Snyder, elle commence avec Superman qui meurt. Tu le vois mourir contre Doomsday, qui est la fin de Batman v Superman. Le cri de désespoir de Superman est tellement fort et loud qu'il comme résonne partout sur la Terre, puis vient activer la Motherbox des Amazones. Puis c'est super logique parce que, comme je disais, Darkseid est attiré par la peur, les Motherbox fonctionnent avec le désespoir. Il n'y a rien de plus désespéré que genre ton plus grand héros qui meurt au combat.
Ouais.
C'est comme c'est l'énergie d'activation qu'il fallait. Puis après ça, Batman, il veut créer la team. Tu le vois partir créer la team pour rendre un peu hommage à Superman. Parce que Superman, il voulait qu'il y ait une team de super-héros. Puis il voulait que les gens soient unis. Ça permet que la trame, les gens, au début, ils veulent... Ils ont d'autres raisons de teamer avec Batman que juste on va être attaqué par des aliens. Il y a une conversation au départ qui est juste entre humain à humain, mais qui ont des super pouvoirs. Sauf Batman.
Ben,
qui est riche. Selon lui, là, qui dit que son pouvoir, c'est d'être riche deux fois quasiment dans le film.
C'est intéressant aussi, ce concept-là, parce que ça fait juste dire, dans le fond, que dans l'autre, on se fait attaquer, il faut réagir. Dans l'autre, ils prennent juste en considération qu'ils sont tout le temps dans la merde. Fait.
C'est ça.
La team, elle se fasse.
T'as pas le choix.
L'important, c'est que la team, elle se fasse. Parce que si c'était pas ça, ça aurait été d'autres choses de toute façon. Fait que ça fait, je trouve que ça fait un petit peu plus... La continuité est meilleure dans ce sens-là. Ce concept-là. T'sais, t'as pas besoin de réagir. Hein? On est tout le temps en réaction de toute façon. Ça donne que là, il y avait quelque chose pendant qu'on faisait la team, mais il y en aurait eu un autre après, c'est sûr et certain. Fait que tout le monde est d'accord avec ça.
Puis après ça, c'est comme dans la version de Snyder, ça a permis que, dans la version de Whedon, il y a une grosse emphase sur Bruce puis Diana, puis comment ces deux-là sont un peu plus amis ensemble, puis qu'ils essaient de rentrer les autres. Mais là, dans la version de Snyder, ils séparent les deux, puis t'as presque aucune scène avec juste ces deux-là. Ils ont vraiment été keep au minimum, alors que dans la version de Whedon, c'était le contraire, c'était ça qu'il y avait le plus dans le film, ouais. Des scènes avec ces deux-là. Je trouvais que ça créait une forme dans Whedon où les personnages les plus importants, c'était Diana puis Batman, puis tout le reste était un peu moins important. Puis dans la version de Snyder, tout le monde a à peu près la même importance, mais Cyborg est au milieu de la narration.
C'est que je m'en allais avec ça. Ouais, dans le fond, c'est que dans les films mainstream, ils veulent toujours avoir un genre de love interest pour juste comme c'est juste plus captivant, puis c'est fait plus vrai, puis ça attire un public en plus grand en général. Je trouve qu'ils ont essayé peut-être de faire un genre de trucs de même avec Batman et Diana, peut-être pas nécessairement du love, mais au moins comme un rapprochement à ce niveau-là. Puis je trouvais que c'était... Écoute, il y a tellement d'affaires incroyables qui se passent, là. T'es un gars qui court tellement vite, qui recule dans le temps, puis je comprends pas pourquoi est-ce qu'un love interest serait important trop dans cet univers-là, mais whatever, c'est bon. C'est juste un... Ça, il y en a tout le temps, là. Fait que whatever.
Ouais, définitivement. Si tantôt on parlait des scènes R-rated aussi qui sont plus violentes, entre autres, shout-out à Amber Heard dans son rôle qui blood-bending, genre la face
oui,
de
c'est vrai, elle a juste comme enlevé toute l'eau, tout blasé, comme dit « suck » tout son blood. Quand j'ai fait ça, j'ai fait comme « oh damn, ok, elle niaise pas ». D'ailleurs, elle a un accent anglais style Angleterre dans cette version-là.
Ils ont changé son accent.
Ouais, ben tu sais... ça fait plus royauté, là, je veux dire, ouais. On se le cachera pas, là, ça donne un petit côté royauté.
Ça fitait quand même, honnêtement, le changement. Ils ont rajouté un peu de scène Aquaman avec des discussions qu'il y a avec son peuple, puis des gens de son peuple. Je trouvais pertinent de voir d'autres aussi, gens de sa nation, puis comment à chaque fois qu'il se parle, il crée des bulles pour pouvoir se parler, parce que tu peux pas te parler efficacement dans l'eau, sinon.
Ouais, tu peux pas faire du FaceTime efficacement dans l'eau, là.
Il y a aussi beaucoup plus de scènes d'Alfred. Ça, je trouvais ça cool. Alfred qui tech. Tu vois qu'il est quasiment le mécanicien un peu de Bruce Wayne. C'est tellement drôle. Ils l'ont mis comme plus mécano-tech guy que le classique Butler.
C'est vrai, c'est vrai. Il fait même pas du thé. Je pense que Manny dit « Ah, je vais aller faire du thé » puis Batman fait « Ah, c'est pas je vais le faire. »
Non, c'est Wonder Woman qui est en train de le faire.
Il est juste comme...
Je pense que c'est trop bien, là.
Il est comme « Je sais que t'es capable, mais c'est moi qui fais ça, tasse-toi. » En tout cas.
J'ai trouvé ça drôle, cette scène-là.
Ouais, c'était bien. OK. Fait que ça, c'est un peu pour les méchants. Je pense que ça fait le tour un peu des méchants. Moi, je veux parler de Superman.
Ben, je pense qu'on est rendu là. On est rendu à la... En fait, non. Il y a deux autres petits points que j'aimerais parler avant.
Vas-y, vas-y.
Pour terminer les débuts. En fait, il y a deux débuts qui changent complètement. Il y a deux flashs, comme je dis, il va sauver Iris West. Mais il y a deux moments dans cette scène-là que je trouvais vraiment le fun pour le personnage. Un, son slow-mo dans lequel il détruit la fenêtre. C'est tellement pristine.
Ah ouais,
wow! Tu vois qu'à la vitesse qu'il va, là, il a juste à s'approcher doucement des choses, puis il est détruit. Fait que quand il sauve quelqu'un, puis il attrape quelqu'un pour le bouger, il faut qu'il prenne son temps. Chris. Sinon, il le détruit en morceaux. Ouais.
Ben, ça fait du bien de voir ça, parce que Flash, dans les comics, Flash a vraiment... Écoute, il est dans le top 3 des personnages les plus puissants là, qu'il n'y a pas là, dans la GLA. Juste... Imagine-tu te faire puncher à la vitesse de la lumière? Je veux dire, comme pas game de te relever de ça. Fait que... c'est des affaires de même, puis on commence... Puis là, il est vraiment dans le début, là. Tu vois que c'est vraiment...
Quand il part, entre autres, il est dos à la situation, quand il veut sauver Iris, puis il fait juste tourner sur lui-même. Puis la vitesse explose ses souliers.
Ouais.
Tu vois que comme ses souliers ont trop de fiction avec le sol pour le mouvement qu'il est en train de faire, fait que ça les a juste explosés.
Ouais. Puis là, il passe à travers la vitre.
Tout lentement, il pousse.
Donc, il break et tu vois tout. Ça, ça fait toute la différence. Là. Tu vois vraiment qu'il est arrivé vite. Là.
Ah, il break il dans l'asphalte. Tout est pété comme... dans l'asphalte.
Ouais.
En poussière. Puis après ça, quand il touche Iris, là, c'est comme il a frôle, il essaie de même pas la toucher, là, comme si un pixel de sa peau le toucherait.
Ouais,
là,
ouais. Doucement, il croise ses bras, doucement, il est juste comme je la dépose à terre. En fait, moi, je me pose quasiment la question, quand il a réalisé qu'à cette vitesse-là, quand il touchait les affaires, ça pétait, qu'est-ce qu'il a brisé?
Oh, j'aimerais tellement voir ça dans son origin film, là. Tout ce qu'il a pété la première fois qu'il...
Ah, écoute, ça va faire comme A-Train dans The Boys, où est-ce qu'il fait juste essayer d'aider quelqu'un en disant « Ah, je vais partir avec », puis splash.
Un autre début d'origine. Grosse origine à Cyborg, enfin.
Ben oui.
Cyborg, yes. Il passe de... Il aurait pu l'enlever complètement du film de Whedon à... Il est vraiment important dans la version de Snyder. Tu vois sa création par la Motherbox. Tu vois aussi l'amplitude de ses pouvoirs. Entre autres, il hack le compte financier d'une mère de famille. Tu vois que lui, il voit le cash des comptes des gens les regardant directement en haut de leur tête. Que tout son scope de pouvoir, comment il s'est entraîné, puis comment il essaie de réagir au monde autour de lui, puis comment pour lui, les machines, c'est tous des êtres vivants un peu. Là.
Ouais. Oh. Puis, il réalise ça quand son père, il laisse comme une genre de d'enregistreur cassette, puis il fait juste écouter ce que son père il a dit, parce qu'il veut pas parler à son père, il est en fuck avec son père. Puis là, il fait juste dire, tu sais, il vise à faire comme, en ce moment, là, il y a aucun ordinateur, aucun firewall, puis aucune technologie qui peut, genre, t'empêcher d'avoir accès. Aucun, là, genre, impensable que t'aies pas accès à ça.
Motherbox.
C'est ça, là, c'est une technologie qui est comme... En fait, dans l'univers de... Surtout dans l'univers de Superman, comme, mettons, Brainiac, ou que ce soit, mettons, Apocalypse ou New Genesis, ces civilisations-là sont tellement avancées que il n'y a pas de date, il n'y a pas de nom de technologie, puis il explique même pas la technologie tellement qu'elle est avancée. Puis je pense que c'est un des atouts de ces affaires-là, c'est que tu prends juste pour acquis que c'est maximalement technologique. Comme, tu sais, mettons, Brainiac possède la technologie la plus technologique qu'il n'y a pas. Fait que ça sert à rien que tu l'expliques, tu ne comprends pas de toute façon, puis tu peux pas l'expliquer. Fait que tu pars déjà avec le concept que tu es au pire. Tu es le plus.
Même chose, Motherbox, c'est quoi ce matériau-là? C'est un matériau inconnu.
un matériau OP qu'on n'a pas besoin de te décrire parce qu'on s'en fout. Le but, c'est que ce soit OP pour justement te donner un ancrage de ton... T'es déjà au niveau 99. T'es déjà à 100% de int. Fait que t'as pas besoin d'y penser, là. Puis là, tu vois, il explique aussi, il dit, tu sais, comme les systèmes financiers de la planète, pour toi, ça va juste être un jeu, là. Tu peux juste déplacer de l'argent à gauche puis à droite juste en y pensant. Il y a rien qui est pas à ta portée si c'est un ordinateur. Fait que... C'est parfait.
Ah, t'es même Yumi. Je trouvais que ça... Là, je vois pourquoi il voulait faire une origin story sur lui. Parce que là, ça aurait été pertinent de voir un film, que tu le vois essayer de régler des cas. Tout de suite après, mettons, la Justice League 1, quand le public, c'est quoi la vision du public eyes de lui? Parce qu'il va faire peur à ben du monde, là.
Ouais. Puis je sais que dans les comics, beaucoup, lui, il est beaucoup... Il essaye de dealer avec cette technologie-là qui fait partie de lui, mais qui ne comprend pas. Parce que c'est tellement une technologie avancée, puis je pense que même les gens qui utilisent cette technologie-là la comprennent juste plus parce que c'est tellement avancé que rendu là, whatever. C'est ça qui se passe.
Son rôle, surtout dans Justice League, c'est d'être un Overwatch. Je parle pas dans le film, là, mais dans les comics, il sert à gérer toute l'information parce que justement, il peut. Il est comme lui puis Martian Manhunter, c'est les deux meilleurs pour faire ce job-là. Le reste du monde sont vraiment B-class.
c'est le IT department du GLA.
Lui tout seul, pas le choix.
Ouais. T'as pas le choix. En même temps, je veux dire.
Hey, j'ai un problème avec mon Alfred.
Ok, t'es chill. T'sais, le gars, il dit, hey, j'ai un problème avec mon, je sais pas, avec mon PC. Il est juste comme. Hey, ton PC est chill, tu sais.
Ce vaisseau-là volera probablement jamais ou dans quelques mois. Non, c'est chill. Elle voulait voler, anyway.
Ouais, c'est ça, j'ai jasé, ça y tentait. Elle filait. C'est juste des... En tout cas, puis j'aime ça aussi comment que chaque jour, il apprend des nouvelles affaires sur lui parce que vu que c'est un ordinateur vivant qui est constamment en changement, donc ses pouvoirs, ses atouts sont constamment en changement. Du jour au lendemain, il se réveille, il fait juste comme « Bon, je suis capable de faire ça, moi, aujourd'hui. Je suis capable de faire un gun avec ma main. T'es pas capable de faire ça hier? Je suis capable aujourd'hui. »
C'est ça, j'ai analysé tout comment le faire, mais je peux.
C'est ça, fait que potentiellement, il y a des pouvoirs un peu à l'infini, parce que s'il est tout le temps en changement, puis il est tout le temps en train de se redéfinir un peu qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis comment il est capable de le faire, ben ça finit jamais, là, son power, là, tu sais, du jour au lendemain, je sais pas, moi, il peut décider que, je sais pas, moi, il est capable de se transformer en zèbre, tu sais. On le sait pas, on le sait pas.
Ou en transformeur, ou...
Whatever.
Ce qu'il veut, sûrement. Ce qu'il veut. Dans les deux films, il y a un point qui est commun, il faut ressusciter Superman. Dans la version de Whedon, c'est très jumpy. En fond, il faudrait le ramener. Et voilà! Il est déjà dans l'eau, déjà en train de le booster. On n'a pas besoin d'avoir d'explication. Les autres, ils comprennent comment réanimer un Superman. C'est super facile, la procédure.
Ah ouais, c'est simple. Ça te prend juste une technologie, une boîte de technologie extraterrestre qu'on comprend pas dans un vaisseau alien. Ouais, c'est ça qu'on comprend pas, mais qui était là dans le film d'avant, avec l'électricité que Flash fait qu'on comprend pas vraiment non plus. Dans le fond, si tu le comprends pas puis tu le bundles,
si tu multiplies trois choses inconnues, ça l'égale une résurrection de Superman.
Exactement. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
Dans la version de Snyder, il y a un peu plus de détails, par contre. Tu vois qu'ils ont, au moins, ils ont réfléchi un peu, ils essaient de faire un setup, faut qu'ils aillent voler, enfin, faut qu'ils aillent sortir le corps de la Terre, tu sais, comme des criminels un peu. Après ça, faut qu'ils sneak in le corps comme des noobs, tu sais, parce que faut que tu traînes un cercueil jusqu'au vaisseau, ça, faut que tu le vois, parce que c'est drôle. Puis aussi, ça montre un beau point du père de Cyborg, parce que tu le vois coopérer avec son fils, comme il fait confiance à son fils de façon absolue. Il pose pas une question. T'sais, il s'en va dire à l'autorité, non, il y a pas un coup dans le building, là. Il voit son fils débarquer. Non, je me suis trompé, c'est vraiment un virus. Il raccroche. T'sais, pas de question. Rien besoin, lui, c'est... Il soutient à 100%. Puis ça, je trouvais ça nice, parce que malgré la distance, puis malgré... Il s'est comme 100% racheté pour moi dans ces deux dernières scènes.
C'est une belle continuité de personnage, parce que le personnage du père de Cyborg, dans le fond, lui, son personnage, c'est juste comme... Le gars qui a découvert cette technologie-là puis qui vénère un peu cette technologie-là parce qu'il ne comprend pas, puis c'est comme la recherche de sa vie, puis il a réussi à matcher les deux affaires qu'il aime le plus au monde. Son enfant qui est blessé puis qui va mourir à cette technologie-là qui est comme le travail de sa vie, puis matcher ça ensemble. Donc c'est sûr et certain que oui, il va tout faire pour son kid, puis pas juste ça, à la fin du film, il donne littéralement sa vie pour son kid, ou est-ce qu'il supercharge dans le fond la mother box pour qu'il soit capable de la traquer avec la chaleur et tout. Mais il hésite pas, là. C'est pas comme s'il se pose la question. Non. C'est tellement les deux choses importantes dans sa vie qu'il met en un, qui est juste comme ça, c'est mon goal. Puis mon goal dans la vie, c'est de s'assurer que ça fonctionne, puis c'est exactement ça qu'il fait. Fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté, son personnage il est là pour une raison, puis c'est pour ça, puis c'est super bien. C'est correct comme ça.
Encore une fois, ça ramène l'arc à Cyborg à quelque chose de vraiment plus puissant que dans la version originale. Aussi, dans les scènes de Dr. Stone, le père à Cyborg, son associé, là, c'est Diatom. C'est lui qui devient Diatom.
C'est vrai.
Ça, c'est tellement vrai. Un beau clin d'œil.
Ouais, Diatom, ça c'est tellement spécial. Là. C'est pas un personnage qu'on entend souvent parler, mais c'est tellement quelqu'un qui est important puis qui a des pouvoirs OP, capable de réduire sa taille à un niveau atomique.
C'est un mostly un Ant-Man qui parle pas.
Ouais. Mais c'est comme un Ant-Man, mais comme Snapinote, là. Genre, wow. lui, il va réduire la taille d'un atome. Il va aller chiller là, il va redevenir normal, il va être comme, hey, là, 2 secondes, j'étais comme ça, de gros.
C'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est ça. On l'avait vu un peu, Diatom, pour les gens qui ont vu la série Arrow sur CW. Ouais. C'est un peu le même scientifique, mais vraiment pas casté de la même façon, là. Mais c'est la même idée de personnage scientifique qui travaille un peu pour des laboratoires de haute technologie.
Ouais.
Fait que Superman. Tu voulais parler de la vision de Superman dans la version de Snyder.
Écoute, j'ai tellement de choses à dire sur Superman. J'aime tellement Superman dans les comics parce que Superman, c'est comme l'ancre sur lequel l'univers est... C'est comme la colonne, le pilier sous est-ce que l'univers est déposé. Puis cette colonne-là, elle se doit d'être intouchable, indéplaçable. C'est juste... Superman, c'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est le plus gros, pour être sûr et certain que l'univers reste comme qui. Quand il se passe quelque chose avec Superman, ça va pas bien dans l'univers, puis tout l'univers est fuck. Fait que, dans le fond, on en a déjà parlé aussi quand on a parlé de un peu Superman, là, on en a parlé justement de la mort de Superman, puis des moments où est-ce que DC Comics font juste tout effacer ce qu'ils ont fait, puis ils recommencent un peu à zéro, puis la mort de Superman est une de ces affaires-là. Puis, dans le fond, c'est que le point que je trouvais ça important, c'est que on l'a vu dans le film d'avant, donc dans Batman vs Superman, où est-ce que ça commence qu'ils mettent en scène que dans le futur, il y a quelque chose qui se passe, et là, Superman, c'est le méchant. Donc, on le sait déjà en partant, en 2015, que Superman, à la base, va éventuellement devenir le méchant. Et là, il meurt dans le film d'après.
Mais enfin, on le met dans ce film-là, parce que Lois, elle se fait capturer. Tu vois que quand Lois est en jeu, il n'y a plus de rationalité. Ouais.
Il est plus gentil. Là. Tu vois qu'il se laisse un petit peu plus aller. Fait que ils mettent vraiment ça en scène. Dans la Snyder Cut, ce qu'il y a beaucoup plus que ce qu'il n'y a pas, mettons, dans la cut régulière, c'est que il y a beaucoup plus de personnages qui ont une vision du futur apocalyptique de Superman. D'ailleurs, Cyborg, quand il commence à parler avec le vaisseau lui dit « Attention, ça va se produire. T'es-tu sûr que tu veux faire ça? T'es-tu sûr que tu veux le ramener à la vie? » Puis il est comme, ben là, attends, là, je sais plus. Puis là, finalement, il n'y a pas le temps d'aller l'arrêter.
Puis Batman le presse aussi un peu. Il est comme, ouais, on continue.
Exactement. Ouais, on continue, ça va. Maintenant. Mais le méchant dans la Snyder Cut, c'est pas Darkseid, c'est pas Stephen Wolf, c'est Superman. Superman, éventuellement, va devenir le méchant. Je trouve ça le fun aussi qu'ils ont ramené son costume noir. Dans la BD, quand Superman meurt puis il revient, il porte un costume noir. C'est pas parce qu'il est rendu gothique, là. C'est parce que c'est un suit qui absorbe mieux les rayons du soleil puis c'est mieux pour le healer. Mais en même temps, il revient avec un costume noir bien plus badass. Fait que je comprends qu'il l'ait mis. Il est plus fort que jamais aussi dans le Snyder Cut quand il revient de sa mort. Écoute,
même plus écoute... C'est rare qu'ils sont plus forts dans les films que les versions comiques. Et ouais. Ce Superman-là, il est fort. Sur un scale de niveau, là, je me souviens pas, moi, avoir vu un Superman take un shot de Wonder Woman, Aquaman puis Cyborg en même temps sans bouger.
Ouais. Tout en regardant Flash
qui bouge
comme si rien n'était. En fait, le bout où Superman est le plus fort, c'est dans un comic, c'est Ultimate Superman, dans le fond, en tout cas, où est-ce que Superman, à un moment donné, pour sauver des astronautes, parce que c'est des astronautes qui orbitaient autour du Soleil, et lui, il fait un voyage autour du Soleil, où est-ce qu'il frôle littéralement la surface du Soleil, et quand il revient sur la Terre, il réalise que ses pouvoirs sont comme amplifiés, là, sont comme fois 1000. Sauf qu'il réalise aussi qu'il va mourir dans pas long, tu sais. Fait qu'il fait un peu closer la boucle sur toutes ses affaires. Sauf qu'entre-temps, il devient le Superman le plus fort qu'il a jamais été. Il a même, il devient plus intelligent, il devient immunisé à la kryptonite. Il juste devient une immensité de lui-même complètement insane. Ça, c'est quand Superman devient le plus fort qu'il a jamais été pour, après ça, donner sa vie pour remettre le soleil qui était devenu bleu, le remettre quoi. C'est une grosse BD, allez la lire. Je pense que c'est Infinite. En tout cas, écrivez Superman OP, là, vous allez le trouver. Puis, dans cette cote-là, tu vois que Superman, il est pas mal plus fort qu'il a jamais été. Il se torche avec Stephen Wolf, c'est même pas drôle. Puis, tu vois que Darkseid, une des choses que il a vraiment peur, c'est justement les Kryptonians, les Kryptoniens, dans le fond. Il y a un moment donné, ça dit, je pense que c'est Stephen Wolf qui dit, sur cette planète, il n'y a même pas de Guardian, il n'y a même pas de Green Lantern, il n'y a même pas de Kryptonian. Tu vois comme qu'il y a déjà des Kryptonians ailleurs qui faisaient ça. Puis là, quand il arrive, là, ça, écoute, il torche, il ramasse, puis dans le cut, il l'arrête parce que là, il est en train de juste le pounder à terre, puis en train de le battre comme ça. Puis là, le Boom Tube avec Darkseid l'arrête justement de juste comme le tuer à coup de poing sa gueule. Superman est rendu dark parce qu'il revient d'une place où il n'était pas censé revenir. Il est plus fort que jamais. Ça met le prémisse, c'est le prémisse au fait que c'est lui qui va être le méchant dans le futur. C'est sûr que là, le Snyder Scott, il n'est pas canon, fait que ça va être le Superman du cut à Whedon. Mais qu'on verra éventuellement,
jamais non plus.
Qu'on verra pas jamais, mais Superman, ça va être éventuellement le méchant, là, c'est sûr et certain. Puis il était pas gentil dans le Snyder Scott. Pas gentil pantoute. The nice, mais pas gentil.
Entre autres, on va terminer avec les endings. Dans la première version des endings, dans la version de Whedon, on voit une course entre Superman qui est puis Flash, qui est un clin d'œil à toutes les courses que ces deux-là font pour savoir qui est le plus rapide. Classique. Après ça, ça coupe. On voit Lex Luthor qui parle à Deathstroke, qui est en train de dire, dans le fond, de faire un pitch d'affaires pour le recruter dans sa nouvelle team de méchants. Dans la version de Snyder, on voit quand même la scène de Lex Luthor, mais il veut pas le recruter pour une weird team de méchants. À la place, il fait juste clairement y dire comme Batman, son nom c'est Bruce Wayne. Have fun. Parce qu'on sait que dans, à la base, la version de Snyder de Batman, c'était censé être dans le solo movie Batman vs Deathstroke. C'était juste le setup pour ça. Fait que c'est un petit clin d'œil à ça. Dans les fins aussi, un moment qui a changé, c'est que Flash, dans la version de Whedon, fait juste tourner puis donne son énergie à Cyborg. Dans la version de Snyder, il faut qu'il ramène le temps. Puis la scène de où toute la vie se restructure. Parce que, dans le fond, ça l'explose, le Unity. Puis Flash court vers l'explosion, mais en allant tellement vite que le temps recule vers où il court. Fait que là, tu vois tout comme le monde se restructurer devant lui. Tellement bien fait, là. Je capotais.
Ils ont comme donné un arc intéressant parce que dans l'autre, il est juste un peu... Il est plus là parce qu'il est là. Là. Il n'y a pas trop de purpose, mais dans celui-là, il y a un purpose vraiment insane. Puis c'est un purpose aussi parce que quand Flash... Ça va jamais bien quand Flash recule dans le temps. Ça va jamais, jamais, jamais bien. On peut le voir avec le Flashpoint Paradox, où est-ce que quand il retourne dans le temps pour empêcher sa mère de mourir, ça fuck toute la trame puis ça détruit.
Mais le commentaire qui dit avant de partir semble croire qu'il l'aurait déjà fait Flashpoint dans ce monde-là. Parce qu'il semble dire qu'il sait qu'il faut pas mess up avec la timeline. Mais Flash, il sait juste après l'avoir fait une fois. Dans le comic, il sait pas avant de l'avoir testé, là.
Peut-être, parce que moi, je pense que ça aurait été plus une prémisse à un stand-alone, justement, à partir le Flashpoint Paradox.
Mais
sauf que ça, c'est le genre de film où est-ce qu'il faudrait pas que tu fasses un origin story sur Flash. Que t'expliques déjà en partant ses pouvoirs, que t'expliques déjà en partant sa mère qui est décédée. Tu sais, faut tout que t'expliques ça. Après ça, faut que t'expliques le fait qu'à un moment donné...
Au moins dans Snyder Cut, on a vu les scènes en prison avec son père. Tu sais, ils ont mis un peu de setup là-dessus.
Ouais, ils l'ont mis un peu setup, mais tu sais, ça, c'est toute une arc. Puis là, après ça, faut que tu ramènes Professeur Zoom. Fait que là, faut que t'expliques Professeur Zoom. Faut que tu ramènes toute cette arc-là. Il y a genre 3 films à faire avec ça avant le Flashpoint Paradox. Puis là, genre... ils l'ont plugué parce que c'est pas canon.
Il va juste avoir un film de Flash qui est annoncé, qui a pas été cancellé, mais le reste, je pense pas qu'il va avoir.
Ça sera pas le Flashpoint Paradox. Ça va être genre... Ça va être quoi? Ça va être avec Grog, là, genre le...
Moi, je pense que oui, parce que c'est un classique.
Ouais. Puis ils ont déjà fait le Captain Cold avec... ils ont amené Captain Cold dans les séries. Fait que moi, je pense qu'ils vont peut-être faire Grog, là. Je veux dire, c'est drôle, là, c'est un babouin. Ça va être plus le fun.
Mais encore, hein? C'est beau.
Ouais, ben il y a Hint aussi que... Il a dit qu'il parlait le langage des signes, mais juste le langage des signes avec les
singes.
Singes, en tout cas.
C'était vraiment un bon clin d'œil.
Ouais, c'était funny.
Dans la version de Snyder aussi, on voit Martian Manhunter aller s'introduire à Batman, puis dire qu'il veut joindre sa team à la fin. Ça, c'est cool, parce que ça disait un peu le, un petit clin d'œil que dans le, si on avait eu le Justice League 2, on aurait eu enfin la team au complet.
Ben on a, puis on n'a pas mentionné aussi qu'il il parle à Lois Lane en se faisant passer
oui,
pour...
c'est vrai, pour Martha Kent.
Pour
un bon heart-to-heart conversation entre Martha Kent puis Lois Lane qui parle de comment il deal avec la mort de Superman. Puis à la fin, quand Martha s'en va, elle se retransforme en Martian Manhunter, puis t'es comme...
Ouais.
Oh my God!
Puis moi, je trouve ça drôle, je trouve ça intéressant comme scène, parce que, tu sais, c'est Martian Manhunter, c'est un martien, c'est pas quelqu'un qui a des émotions comme des humains, mais il est capable...
C'est un télépathe, et il comprend super bien pareil.
Il comprend bien, mais il est capable de jouer littéralement les émotions d'une personne qui n'est pas là. Je suis comme... En tout cas, je me pose la question comment il a fait.
Il a scanné.
Mais en même temps, c'est le fun que cette scène-là soit là, parce que ça met... Premièrement, ça met le personnage beaucoup en évidence. Ça fait... Tout le monde a fait comme « Oh my God ». Moi, je l'ai pas vu venir, mais pas pantoute. Là. C'était vraiment out of nowhere. Puis tant mieux, parce que quand même, c'est le fun des surprises comme ça. Tu sais, ça fait longtemps que je me suis pas fait surprendre de même. J'ai pas fait comme oh shit, ok.
Puis aussi, je trouve que le deuil de Lois Lane me semblait plus logique dans la Snyder Cut. Tu sais, elle drop sa job pour pouvoir comme deal vraiment. Tu sais, c'est pas une mort normale. Tu sais, ton chum, c'est Superman, puis il se fait tuer par un monstre alien gigantesque qui s'appelle Doomsday.
Ouais.
Tu comptes pas avec en retournant travailler deux jours après, puis aussi la conversation qu'elle avait avec Martha dans le premier était un peu weird, puis les deux étaient genre, ben, men's up, tu sais, c'était un peu ça la convo, puis c'était, je trouvais ça awkward.
Là, c'était ouais, plus ressenti, je comprends, là. Moi, ma blonde, elle meurt demain matin, je pense pas que je vais travailler demain matin, non, c'est sûr et certain, là, tu sais.
Surtout pas de façon gore et violente, là.
Ouais, ma blonde se fait tuer par Doomsday, ça se peut que j'ai pas travaillé.
Pendant long... Moi, là, ma blonde en meurt par Doomsday. Je vais pas travailler pendant comme 3-4 mois, là. Je suis traumatisé.
Moi, je travaille plus jamais. Moi, je sors plus dehors. C'est fini,
là.
C'est fini, je sors plus dehors.
Après ça, pour dans le reste des fins, la dernière scène finale, c'est un autre flashback du monde apocalyptique. Puis ça, on est content parce que c'est la plus grosse trame narrative de Snyder. C'est qu'il y a un monde dans le futur que ça va fucking mal.
C'est Superman qui est le méchant dans le futur.
Ça commence, puis t'as juste Batman qui est en train de se promener, en fait, et tombe sur le Joker de Jared Leto qui est juste en train de rire, randomly assis sur un char, et qu'en gros, il demande une truce à Batman. Ben, il nargue un peu avant, on l'a dit, il mentionne Robin, entre autres, puis il dit « Ah non, Batman, il sait c'est quoi perdre du monde, hein, tu sais. Il connaît ça, la défaite. » Puis là, il dit « Mais, il faudrait s'allier, tu sais. » C'est comme, qu'est-ce qui forcerait Joker à aller demander une truce à Batman, là? Puis après ça, dans les flashbacks, tu vois entre autres Superman avec un cadavre de squelette dans les mains, qui a de l'air d'être dans la cave de Batman en plus, parce que tu vois le costume à Robin, puis l'écran du computer à Batman. Puis tu vois que c'est Darkseid qui a juste fait son classique laser. C'est un peu comme le laser Superman, mais lui, il le contrôle, il peut comme changer les angles comme il veut, là.
Des Omega Beam.
Il a juste détruit Lois Lane avec ça, puis c'est là que tu comprends. Puis après ça, ça recoupe à la scène de Jared Leto puis Batman, tu vois juste Superman arriver. Puis là, t'as tout le monde qui se regarde. Ça me donne tellement... J'aurais tellement aimé en fait voir ce futur-là. Il semble tellement plus le fun.
C'est le fun quand le méchant non seulement... C'est la chose la plus puissante qu'il n'y a pas comme sa planète et de loin, là. Mais comme de loin, là. On s'entend, là, dans l'équipe qu'il y a en ce moment, là, il n'y a personne qui peut take down Superman de aucune façon, là. Aucune façon, c'est sûr. Certains, même unis toute la gang, c'est impossible. Puis en plus de ça, si lui il est là, puis Darkseid a peut-être tué Lois Lane, il y a des bonnes chances que Darkseid soit plus là.
Oh ouais, parce Darkseid que... il est mort, c'est juste Superman, le méchant.
Ouais, moi, tu tues ma blonde devant moi, je m'en viens. Je la connais, ton adresse, ça sera pas long, je m'en viens. Tu sais, fait que, d'après moi, il y a cette trame-là où il pensait justement que de, peut-être comme s'il y avait un deuxième film, il allait genre justement péter à la gueule à Darkseid où est-ce qu'il allait faire une grosse affaire, puis il pète la gueule à la fin, mais comme Lois, elle meurt. Puis en faisant ça, c'est là qu'il voit un peu rouge, puis qu'il décide de créer un peu son monde apocalyptique, supermanesque, où est-ce que c'est lui le méchant, puis c'est lui qui gère tout, là.
Un dictateur absolu de ce monde.
Ouais, c'était vraiment une belle scène d'acteur, où est-ce que, justement, dans cette scène-là, Batman dit au Joker que, genre, « Oh, inquiète-toi pas, man, je vais te fucking tuer, genre, comme il dit, I'm gonna fucking kill you. » Puis Harley Quinn m'a fait promettre que je vais faire ça lentement. Là, t'es comme... OK, il y a beaucoup d'éléments dans cette phrase-là. Premièrement, Batman qui est rendu dans un futur apocalypse, où est-ce qu'il tue maintenant parce que de toute façon, tout est mort. Fait que là, whatever, il n'y a plus rien à garder. Deuxièmement, il va le faire parce que quand Batman dit quelque chose, en général, il le fait. Puis Harley Quinn lui a demandé de le faire. Ça allait déjà pas bien dans Birds of Prey. Avec Harley Quinn, là, ça va encore pas bien parce que si tu dis à Batman, yo, quand tu vas le tuer, là, parce que je sais que tu tues pas personne, mais quand tu vas tuer lui, yo, tu le fais lentement pour moi. Fait que là, en tout cas, il y a beaucoup d'informations là-dedans.
Ah, c'était un bon wrap-up, je trouve, de tout ce qu'il avait voulu faire, un peu un clin d'œil à cet univers-là. Peut-être pour terminer, c'est. Tu sais, le prochain, on sait que tout ça, là, ça se passera probablement pas. On sait que certains personnages comme The Flash, ils vont sûrement faire leur solo movie. Aquaman, il va probablement avoir un prochain movie. Tu sais, Wonder Woman. Mais je pense pas qu'ils vont les rejoindre ensemble. Puis s'ils rejoignent ensemble, il va probablement même pas avoir trop de liens avec Justice League 1. Ils vont peut-être même essayer de leur reboot. Parce que ça a été trop chancelant. T'sais, ils n'ont pas été capables d'avoir les nombres qui équivaudraient ouais. à Marvel du tout. C'est pas pour rien qu'à ce moment, ils relaunchent. Tu sais, ils relaunchent Batman avec Robert Pattinson, puis ils relaunchent Joker avec Joaquin Phoenix. Puis, toi, t'as-tu regardé un peu les trailers puis les images du Batman de Robert Pattinson?
Oui, j'ai écouté les trailers, ça a l'air quand même bien. Je veux dire, moi, pour moi, Batman, c'est pas le personnage le plus difficile à jouer.
Okay, non.
C'est très carcan, là. C'est facile. Tu parles comme ça, puis t'es traumatisé, puis tu pètes des gueules. Batman, c'est pas mal ça. C'est pas le personnage le plus difficile à jouer. Fait que je suis pas piqué sur qui joue Batman. C'est sûr que si c'est George Clooney,
c'est le cast autour qui va être important.
C'est ça. Puis c'est pas juste ça, c'est le contexte, c'est l'histoire qui vient avec. Quel genre de Batman ils vont, quel genre de Batman ils vont faire. Parce que c'est le fun de prendre des Batman, mettons, comme The Dark Knight Return, puis avoir des trames dans cette affaire-là. Mais c'est parce que c'était pour faire de Dark Knight Return, faut que tu prennes un Batman de genre ouais, 50, année, c'est pas de pour 65
faire les...
ans. T'sais.
C'est pas pour faire le Batman de Nolan pendant les 50 prochaines années non plus. Là.
C'est ça, là, je veux dire, c'était pour prendre un concept de Batman, je voulais à 100%, là, je voulais comme du monde. Fais pas juste faire un clin d'œil à ou prendre la grosse affaire cool dans genre les deux séries, mais tu prends juste comme 25% de tout ce qui a été dit, puis tu fais toute une trame avec ça, puis comme... T'as... En tout cas, faites juste suivez juste comme l'histoire que vous voulez dire. C'est juste ça, là. C'est juste ça. Je veux dire, arrêtez de cramer un million d'affaires dedans. Puis juste comme suivez une affaire, faites-les bien, puis on va aimer ça. C'est Batman, pète des gueules. C'est le combienième Batman, Robert Pattinson, on le sait-tu?
Je pourrais pas te dire le nom exact.
Écoute, il doit en avoir rendu là mm. avec toutes les séries, puis tout, il doit en avoir une vingtaine, là. Facile.
Avec les bon, animated, ben, puis tout, ben trop,
regarde. Juste, on s'en fout qui le joue. Juste faites une histoire, là, puis.
Ben déjà, j'avais vu dans le casting, il avait déjà mis plusieurs méchants. Fait que je pense que ça va être pas comme un 1v1. Tu sais, ça va être un peu, on va voir Batman essayer de dealer contre comme un conglomérat un peu de méchants. Là.
Ça pourrait être
ça, j'aime ça, je trouverais ça cool. Là. Que tu vois pas vraiment, aussi, il gagne contre un, il va gagner, mettons, contre un, mais tu vas voir qu'il est finalement contre 6 tout le long, puis comment les 6 essaient de toujours fuck avec lui constamment. Là. C'est un peu ça, Batman, là, tu sais, c'est plein de criminels à Gotham qui se font la passe pour essayer de se péter à la gueule.
Là. Ouais, pour vrai, parce qu'à un moment donné, ils sont pas capables, là, fait que... Un team-up de méchants, ça pourrait être intéressant, là. Puis j'espère que c'est pas un team-up à la Batman Forever, là, ou est-ce que c'est juste comme Two-Face puis le Riddler qui se mettent ensemble pour essayer de péter à la gueule?
Non, je pense que... Dans les caches, je pense que Two-Face, mais il y a Penguin, entre autres, qui a déjà été casté, fait que...
Ah ouais, OK.
Il va en avoir plus de... Mais je pense qu'on va commencer avec tous ceux qui ont un peu moins de super power parce que c'est juste plus facile à faire, honnêtement.
Ouais, ouais. C'est des mobsters plus que d'autres choses. C'est le pingouin, c'est un mobster.
C'est
là,
ça. Ils vont teamer comme une couple de mobsters ensemble, je pense, au début. Puis après ça, ils vont, dépendant de comment ils marchent, ils vont peut-être le jumeler un peu avec d'autres univers ou le garder vraiment stand-alone, on ne sait pas. Puis...
Ouais. Bon, whatever.
Ah, c'est ce qui va conclure l'épisode spécial sur le Snyder Cut. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, je vous invite à suivre notre série. À la prochaine, tout le monde.